Collecter des sources orales, voir se dessiner les lieux, objets et habitudes d'époques révolues à travers les mots de celles et ceux qui les ont vécues. Se laisser guider par leur voix qui nous mène à la mémoire d'un village, d'un territoire, d'un pays. On y découvre des gestes, des outils, des modes de vie, des odeurs et des chemins. C'est Anne-Marie, Josette, Arlette M, Josie, Roland et Arlette C qui nous conduisent au creux des dédales de ces lieux, qui nous prennent par la main et nous emmènent sur leur chemin ceux qui ont compté pour elles et eux. On y retrouve alors une cartographie partielle et partiale du Royan des années 50, 60 ou 70 avant que la télé, la voiture et le prêt-à-porter ne soient rois, quand le tambourinier, les bals et les cinémas rythmaient le quotidien des habitants et habitantes des villages du Royan, quand se rendre d'un village à l'autre constituait encore un périple, à l'heure où la guerre se terminait à peine. Récit oral, récit choral, traces audio naviguant entre passé, présent et avenir, sources immatérielles de vie en cours. Les souvenirs entraînent des récits et les récits de nouveaux souvenirs. Le déposoir à murmures offre ce temps de contemplation et de témoignage d'une mémoire encore bien vivante. Le déposoir à murmures constitue une polyphonie de récits croisés. À nous de poursuivre le fil tissé par ces voix. Une production Radio Royan-Vercors 2025. Sa voisine nous décrit Arlette comme une personne causante, pétillante et au caractère bien trempé. Dès la première rencontre, elle déroule sans pudeur et avec malice les souvenirs de son village tant aimé de Saint-Jean-en-Royans. La vie, l'amour et le travail l'ont conduite à Saint-Laurent. Mais son cœur appartient éternellement à Saint-Jean. Son parler franc et teinté d'humour nous emmène dans les souvenirs bien vifs d'un temps douloureux marqué par la guerre. Nous partons en balade dans les dédales de sa vie.
Alors justement, il n'y avait pas une Arlette à Saint-Jean. Alors j'ai demandé à ma maman comment ça se fait qu'il n'y a que moi qui s'appelle Arlette. Ah ben elle m'a dit je sais pas, ça doit venir du midi, je sais pas trop. Et puis maintenant j'en entends beaucoup. Arlette Audette. 1930, 95 ans au mois de septembre. Ça c'est pas d'aujourd'hui. Hein. Ma maman est née à Bouvain-Pleau, entre Bouvain-Pleau et Bouvain-Pleau-Bas, le quartier Les Vignes. Là, à Péfort. Elle est née là.
Elle est née à Bouvent, à Saint-Martin-Colonel.
Et mon papa, il est parti d'Espagne à pied pour rentrer en France. Et il y avait des camions qui les attendaient sur les plages, à Saint-Marseille, de partout, là-bas en bord de mer, et ils s'y retrouvaient dans la Drôme.
Je vous dis, là-haut, au chantier, mon père est venu pour... faire la route, parce qu'ils l'ont faite, elle n'y était pas la route. Le barrage à Bouvent et la route de Lente, de Pionnier. Mon père nous a bien expliqué qu'ils avaient creusé le tunnel de Pionnier. Et il y avait des ouvriers. Il fallait les faire manger. Il y avait des cantinières. Alors c'était des jeunes femmes, des jeunes filles de Bouvente, de Saint-Martin-le-Colonel. Maintenant, il y en avait de Saint-Gerre, j'en sais rien. Et ben c'est pareil, à 15, 16, 17 ans, on les casait, il n'y a pas de boulot. Ils sont venus à Saint-Gerre quand la route a été faite un peu plus loin, parce que mon frère Marius, il est né en 1920, là-haut. Il est inscrit à... il n'y avait pas la mairie, c'était... il est en 1920 à Léoncel. Ben, en Espagne, ils étaient pauvres. Moi, il était plus vieux, mon papa. Il était un peu plus âgé que moi. Et parce que il cherchait dans la région, il cherchait des ouvriers, des étrangers. C'est quand ils ont fait la route, le barrage à Bouvente. Et certainement qu'en Espagne, à cette époque-là, ils n'avaient pas de boulot. C'était un migrant, finalement. Mais il y en a bien, ou là, après qu'il y en avait, vous voyez les migrants qui font. Seulement lui, on leur cherchait du... on les avait, je sais pas, ils cherchaient des gens pour les faire travailler là-haut. Mais Marius, il est né en 1920, là-haut, pendant qu'ils étaient même pas mariés, ils se sont mariés en 1922. Et bien après, ben, comme la route a filé, ma maman, mon papa... Ben, ma mère est descendue à Saint-Jean, on est tous nés à Saint-Jean. Oh, ben c'était travail, hein. Il fallait. Mais alors j'avais un papa qui était très très famille. Parce qu'il a gardé, il avait expliqué à ma mère pour écrire à sa famille. Je me rappelle que ma maman écrivait en espagnol aux frères, à ses frères, et il a une sœur qui était venue à Saint-Jean. Quand on habitait sur la place de l'église, moi je m'en suis pas rappelée, mais c'est les commerçants qui me l'ont dit, de Saint-Jean-Royen, qui m'en ont parlé longtemps après. Et ta tante, la sœur de ton papa, est-ce que tu as eu des nouvelles? J'ai dit, même mes parents, oui, se correspondent, parce que ma maman avait appris l'espagnol, avec mon père, elle apprenait, et elle écrivait, je me rappelle que ma maman faisait des grandes lettres qui partaient en Espagne. Mais on s'entendait beaucoup. Parce que mon papa, tous les dimanches, on m'en suis toujours rappelé, on n'avait pas une jouée. Mais tous les dimanches, mon papa, ma maman, on allait nous promener. On revenait, c'est là que j'ai connu le houblon, le pissenlit. On revenait avec des fleurs pissenlit, on revenait avec du houblon qu'on faisait l'omelette le soir. Je me rappelle qu'il nous menait à Fontépès. Alors, je ne sais plus de quel côté c'est, Fontépès et Fontaigny. On allait à Fontépès. Et puis, ils nous montaient à Fontaigny. Alors, à Fontaigny, c'est là qu'on ramassait le houblon. Et qu'on mangeait l'omelette le soir en rentrant. Mais on avait beaucoup de... Si, mais il y avait une bonne... On n'avait pas d'argent. Ben, les parents travaillaient. Puis nous, on avait point de jouer. Et puis, à cette époque-là, faire quoi? Si, avec ma voisine... La Jeannie Drevetton, qui habitait à côté, à la place de l'église, ce qu'on faisait, on allait dans les bûchers, parce que les gens se chauffaient tous au bois. Hein. Alors, on avait la chapelière, Madame Barré, à côté, à la place de l'église, là. Après la poste, il y avait une chapelière. Et son mari, il travaillait à la forge plus haut, en montant au cimetière. Alors, Madame Barré, on s'enfilait dans son, il y avait une petite ruelle, et on descendait s'amuser dans les jeux de boules de chez Virard, derrière, que la boniche nous faisait courir. Et elle nous partait après. Et alors, on faisait tous les bûchers. Et alors, même sur la place de l'église, on s'enfilait entre la pharmacie et le bureau de tabac. Il y a un grand portail en ferraille. On descendait. Et on prenait la route des bûchers, là, derrière. On s'amusait dans les bûchers. Il y a une petite route. On faisait toutes les caves, on s'amusait, et on ressortait à la rue Jean Jaurès. Mais dans la maison, non, on s'amusait entre nous, comme ça, papa, on chantait, mon père nous faisait chanter. Je sais qu'on chantait, on avait dessiné la marelle dans la chambre, ma mère nous l'avait fait au crayon, avec une craie. On sautait, on jouait la marelle. Mais on avait un bon lien en famille. Que ce soit les filles et les garçons, je ne me rappelle pas m'être disputée avec mes frères ni rien. Hein. C'était les filles d'un côté, les garçons de l'autre. Eux, les garçons, ils se réunissaient dans leur chambre, ils s'amusaient. Nous, on s'amusait plus loin parce qu'il y avait la fenêtre. On voyait les jeux de boules dessous chez Virard. On dansait, on s'amusait comme ça, quoi. Mon papa chantait avec nous. Je ne savais pas chanter, mais... C'était en bas dans la cour. Non, là, au bout de la petite rue, la carte de la place de l'église, vous rentrez, là où il y avait l'ancienne poste. Là, ça fait une cour. Et il y avait plein des habitations tout autour. Il y avait d'abord les postiers, il y avait M. Breuil, qui est le propriétaire de la maison. Il y avait ceux qui avaient leur commerce de vin. Ils avaient tous une porte qui venait dans la cour, là. Ils fermaient leur magasin par devant et ils sortaient de là. Marius, comment je ne sais plus, le coiffeur. Après, il y avait le magasin Valet. À côté, il y avait la coiffeuse, celle qui nous coupait les cheveux, Madame Mordassière, qui sortait tous de là. Ils fermaient par devant et ils sortaient par là. Et les toilettes, c'était tout là. Alors ça, ben, j'habitais sur la place de l'église. J'aimais bien là-bas sur la place de l'église. J'y avais mes copines qui venaient, on s'amusait. Il y avait le feu d'artifice. Quand c'était le feu d'artifice là, au pied du lavoir, c'était un lavoir à cette époque. Le feu d'artifice se faisait là, entre là et l'église. Mais après le feu d'artifice, eh ben on nous faisait faire tous les greniers en cas qu'il y ait des ils soient allés. Hein, les gens nous envoyaient faire les greniers pour faire attention qu'il n'y ait pas eu un truc qui soit... Parce qu'il n'y avait rien de fermé en haut. Entre les gens, ils y avaient tous quelque chose dans les greniers. Hein. C'était la commune, ben, pour le 14 juillet. Eh bien, je sais qu'on mangeait beaucoup des pommes de terre. Et quand je me rappelle, quand nos amis venaient de Romain, les amis de mes parrains, on faisait les ravioles tous les dimanches matin, à la main. De gamines. Gamine, ma maman est empêtrissée et je me rappelle que nous, on hachait le persil, on remuait la tomme fraîche. Bon, c'est ma maman qui faisait la farce, mais on préparait, quoi. On lavait le persil et on le hachait. Mais tous les... Mais faire les ravioles le matin à la main, il fallait être marteau, hein. Je me faisais à la main, comme ça. Mon papa, il devait faire... Après, j'ai su qu'il devait faire un jardin, et puis on devait peut-être nous donner du légume, je sais pas. En tout cas, on a toujours bien... À part que j'avais été malade petite, qu'on m'appelait Trompe-la-Mort, et que monsieur Teston, qui tenait le magasin de chaussures, avait dit à ma maman, Arlette, elle a pas pour deux sous de santé, il faut l'envoyer en colonie de vacances. Fait monter là-haut au Michelon, j'ai jamais retrouvé le coin. Ben alors là, j'y ai pleuré, hein. J'y ai pas pris des forces. Hein. J'aimais pas, hein. C'est un coin que j'aimais pas. Dans Vercors, exactement où, Saint-Martin, le Verlon, je sais pas. Une colonie de vacances. Il y avait la colonie de vacances de la montagne et la colonie des deux mers. Par contre, ce que j'aimais pas, moi chez moi, ma maman avait toujours une lessiveuse d'eau, une grande bassine, une lessiveuse d'eau sur le poêle à bois, dans les chambres. Et on nous lavait à l'eau chaude, tandis qu'au Michelin, au bassin, ils ont mis une grande chenot qui a été coupée, pleine de trous, et il fallait se laver là. Oh, qu'est-ce que j'ai pu pleurer. Mais j'avais 7 ans. À la montagne, dehors, on nous foutait chacun un trou de la chenot. Et il fallait se laver les dents, se débarbouiller comme on pouvait. Oh là, que j'ai pas aimé ça. Je l'avais bien dit à ma mère qu'on m'y renvoie pas. Hein. Non. J'allais à l'école. Quand il neigeait, mon papa nous mettait des guêtres. On n'était pas équipés pour. À part des galoches. Ça faisait comme une sorte de bottillon, mais il y avait des clous dessous pour pas glisser. J'ai porté que des galoches, moi. Hein. Je sais pas ce que c'était qu'une paire de chaussures. C'était un cuir dessus, et dessous, la semelle était du bois. Et ben, et pour aller à l'école, j'avais un cartable en carton. Les voisins, plus haut, les Romanais, ils me passaient nous prendre. Alors, mon papa nous mettait une guêtre. Et puis, arrivé à la route en bas, un peu avant l'Intermarché, là, il y a une route qui monte, là, à gauche. Là, ils nous enlevaient les guêtres et ils revenaient nous chercher le soir. Ils remettaient les guêtres. Et les galoches, j'en ai porté. Quand je travaillais à la couture, je crois bien que j'étais encore en galoche. Hein. Ah ben, il y avait beaucoup de respect à l'école. Hein. Vous voyez, j'ai regretté que j'ai pas pu faire des études parce que j'aimais bien. J'aimais l'école. Non, parce que moi, j'apprenais bien. Même là, je me rappelle que Madame Bell avait dit à ma mère, est-ce que vous pourriez pas la laisser à l'école, là, encore une ou deux, faire du complémentaire? Elle a dit, chez nous, on n'en a pas les moyens. Il y avait des repas pour les pauvres, pour ceux qui ne pouvaient pas rentrer dîner chez eux, comme nous. Qui c'est qui nous servait ces repas? Je ne sais pas. Je sais qu'un peu avant midi, et au fond de la classe, quand j'étais chez Madame Bell, hein, ils mettaient des tables, et puis on nous servait des repas, c'est peut-être la commune, hein, qui servait des repas aux écoles. Et j'ai passé mon certificat d'études, et le jour de mon certificat d'études, ma mère m'avait fait un joli petit costume. Elle me dit, avant d'aller passer ton certificat, passe chez Solange, tu lui donnes le portrait des œufs. Et j'ai cassé un œuf dans ma poche. Il a fallu laver ma veste de mon machin. Et je suis passée faire mon certificat d'études et je l'ai réussi. Il travaillait pour la commune, M. Beguin, qui passait le tambour et qui annonçait les naissances, il annonçait les mariages. Il n'y avait pas de journaux, c'était pas comme maintenant. Ni de portable, ni de radio. Peut-être qu'il y en a qui avaient la radio, mais pas nous. Hein. Et alors, c'est souvent qu'il passait dans la rue, annonçait quelque chose, un mariage, un décès, une naissance. Et là, ce tambour, je me rappelle de M. Beguin qui a passé avec son tambour, il s'est arrêté à plein de l'église. Nous réunissons tous les gens de la place, veuillez venir là, sur la place de l'église, c'est la place de l'église. Je vais plus loin après pour ceux de la mairie, il y a des réunions. Alors il avait tambouriné au Champ de Mars, là, puis il allait tambouriner encore. Et il avait quelque chose à annoncer, veuillez venir nombreux sur la place de l'église. Alors bon, ma mère nous y mène tous, venez, venez. J'avais 9 ans, ça je me rappelle. J'étais en 39. Ma maman, qu'est-ce qu'il va nous annoncer, un mariage? Et puis Monsieur Chastain, celui qui tenait la librairie, il sort de son magasin avec une chaise. Je m'en suis toujours rappelé de cette histoire. Il a monté sur une chaise, il s'est bien calé. Bon, alors je ne sais pas si vous êtes tous au courant, mais moi, nous, on a été informés. Ça y est, il y a la guerre. Comment qu'il a expliqué, je ne peux pas dire. Et nous, on s'amusait, j'avais 9 ans. Puis quand ma maman nous a dit, allez, allez, hop, on rentre à la maison. Elle avait les larmes aux yeux, mon frère était au chantier de jeunesse. Alors, appelé pour aller à la guerre, hein. Alors il est parti au maquis. Alors, on est vite rentré. Puis j'ai dit, mais pourquoi tout le monde pleure? Qu'est-ce qu'il a annoncé, M. Beguin? On n'a pas écouté à 9 ans. Hein. J'en avais rien à cirer, hein, de ce qui se passait. Eh bien, c'est y a la guerre. Les usines ont fermé. La route, ils avaient arrêté, et plus personne qui travaillait. Parce qu'il y en a qui ont été mobilisés, peut-être, pour partir, je ne sais pas. Et mon papa avait loué une vieille ferme qui était même inhabitée, aux Chuiles. Et alors, il a acheté une vache. Peut-être quelqu'un avait dû lui prêter des sous. Je sais qu'on avait une vache. Après, ma maman, on lui avait donné 2 poules. Et puis, il y avait un petit jardin. Et après, on vendait ceux de Saint-Jean, des amis, des jeunes qu'on connaissait bien, ils venaient chercher des œufs, venaient chercher du légume. Et on avait du lait, je me rappelle qu'on avait du lait. On vendait beaucoup du lait. Qu'est-ce qu'il fallait qu'ils fassent à Saint-Jean? Mon papa s'en travaillait. Il fallait nous nourrir. Là-haut, il y avait du terrain. Il avait fait un petit coin de blé, un champ de maïs, qu'après même, ma tante était montée, pendant quand ça bombardait à Saint-Jean, ma tante était montée avec ses 2 filles. Et bien, elles se foutaient à plat ventre dans les maïs dès qu'elles entendaient un avion, et hop, on les voyait partir. Ça nous amusait de les voir. Elles partaient, on voyait que leurs fesses, elles se mettaient la première dans les maïs. Alors là, on arrive. Et ben, j'avais mon frère qui était au chantier de jeunesse. Et bien automatiquement, il allait être mobilisé pour partir à la guerre. Et ils sont partis, à plusieurs. Ils sont allés au maquis, avant qu'on les coince. Et ils sont partis, enfin, il a dit qu'ils étaient partis à plusieurs, des copains. Et ils sont, certainement qu'il avait eu des échos, il devait se correspondre avec des copains, il n'avait rien. Et ils sont partis, il a passé à Saint-Germain, il a ramassé un peu son bazar, et ils étaient dans le Vercors. Ils faisaient beaucoup de contacts avec d'autres. On leur fournissait des armes, il fallait les monter là-haut, ils venaient les chercher la nuit chez nous. Je l'ai su qu'après, hein. J'entendais du bruit la nuit. Mais, eh ben, ils faisaient le trafic. Est-ce quelqu'un avait, paraît-il, qu'il y avait un ami de Romain qui... Alors, ces armes, ben, quelqu'un les a portées la nuit. Mon frère venait les chercher, les monter dans le Vercors. Ils en avaient besoin dans le Vercors. Et mon frère, il y en a qui le voyaient passer, il a été dénoncé. Et ben, alors, quand il y a eu les Allemands sont venus à Saint-Jean en 1944, qui sont venus dans Saint-Jean, on a vu rentrer les camions, les tanks dans Saint-Jean avec mon frère Roger. Alors on était sur le talus du jardin et on les voyait passer aux pompiers. Ils rentraient dans Saint-Jean, les Allemands. Ah, mais je les ai vus passer. Et je les ai vus, enfin, c'est des miliciens que j'ai vus, moi. Hein. Mon papa nous a dit, tenez bien de veiller. Il ne faudrait surtout pas que votre frère soit dénoncé. On trouvait bizarre, et effectivement. Ils étaient camouflés, il y avait mon frère et 2 autres résistants. Puis ma maman, j'ai entendu que ma maman leur a dit « Mangez vite, on ne sait jamais. Les gamins surveillent. » Alors moi, je surveillais d'en haut, du côté des Chuiles, et mon frère était dans le jardin qui surveillait le pont de pierre. Là-bas, on voyait passer les tanks. Alors, de temps en temps, on se retrouve. Je dis « Qu'est-ce que tu vois ? Viens voir les tanks. » Alors je regardais. Et puis lui, ben moi je dis, moi je vois, j'ai rien à te faire voir, hein, y a que la forêt là. Hein. Il me dit, et puis mon papa il me dit, retourne à ton coin, allez, ne vous amusez pas tous les deux, c'est pas le moment. Pendant que les autres mangent, les 2 messieurs, il y avait 2 messieurs en plus de mon frère, hein, 2 résistants. Bon, moi je veillais, puis je dis à mon frère, à Roger, qu'est-ce que tu vois toi? Il me dit, ben, je vois passer des camions en bas au pont de pierre. Je me retourne, je fais. Oula, les voilà! 3 miliciens. Ah, tout habillé en ciré noir. Ah, mais j'ai eu ça comme ça, hein, devant moi. Hein. Et puis, il y avait un civil derrière. Mais qui c'était? C'est parce que pour venir là, il fallait que quelqu'un les guide. Hein. C'est souvent que j'y perds encore la nuit. Des miliciens. C'était des Français habillés en ciré noir, casque noir, la mitraillette. Ils m'ont mis un jour, hein. Arrêtez-vous! Alors j'ai crié fort, tant que j'ai pu. Les voilà! Alors les deux, comme ils me tenaient un jour, les 2 autres résistaient, ont sauté par la fenêtre pour courir dans les bois. Mon père leur a jeté leur veste en bas derrière. C'était un tas de fumier, mais bon. Et mon frère est resté à table, il a dit: je bouge pas. Sûr qu'on m'a dénoncé. Surtout quand on a vu un mec derrière qui suivait. qui les a bien amenés au bon endroit. C'est plus que sûr. Pourquoi venir comme ça dans la campagne? Et lui, il a su qui c'est, mais nous, on a... Et ils sont rentrés. Que personne ne bouge. Alors mon frère a dit, mais on ne bouge pas. Hein. Alors il ne restait plus que mon père, ma mère et mon frère. Et moi, j'étais sur le pas de la porte. J'en menais pas large. Je dis, il manquerait plus qu'ils tirent. Et puis, ils ont discuté entre eux. Et puis, il n'y a pas d'armes ici. Alors, mon père, il fait, ah, il n'y a pas d'armes. Non, vous voyez sa veste. Tiens. Vous l'emmenez. Ah, oui, on le descend à la gendarmerie à Saint-Jean. Alors, donc, c'était des biais des Français. Hein. Ils ont pris la veste. Heureusement, il n'y avait point d'armes dans la veste. Mon père avait tout jeté ce qui était de l'autre côté. Et puis ils les ont emmenés à Romain, il est resté 8 ou 10 jours, et puis après ils les ont relâchés. Est-ce qu'ils n'avaient pas assez de preuves? Est-ce que... Mais n'empêche qu'il est reparti vite au maquis. J'avais 14 ans. Hein. Ouais, c'était pas beau la guerre, hein. On ne veillait pas. On n'a pas eu une enfance facile, hein, chef, parce que c'était qu'une poupée, ni qu'une une orange. Hein. C'est tout de suite que ça eut fini, les gens étaient contents, ils se sentaient libres. Ils allaient au cinéma, ils allaient tout de suite après la guerre, pas pendant la guerre. Ah non, on n'allait pas au bal pendant la guerre. Hein. Oui, mais les bals n'étaient pas autorisés. C'était quelqu'un qui l'organisait, il y avait monsieur... L'usine en bas, dans une usine à bois, là, sous les brous. Alors dans l'usine... Ils avaient un machin, et on s'amusait, quoi, on n'avait rien. Ça n'a pas été interdit longtemps, mais parce qu'on avait, il y avait encore rien, quoi. Ils étaient tellement contents qu'ils se faisaient des balles, ils appelaient ça des balles clandestines. C'était pas déclaré, ils payaient pas de musiciens. On avait un tourneau de 10, et tandis que ça doit être déclaré, un bal. Même là, le restaurant au Champ Mars, là, Castelfleury, eh ben, elle en faisait un en bas, elle faisait aussi, dans la cave en bas. Clandestin, parce qu'il ne fallait pas déclarer encore. C'était ce qu'il y avait encore. On n'a pas fait. On n'a pas été libre quand même tout de suite. Après mon certificat d'études, après 44, un an ou deux après. Quoi. Un an après, on a commencé les cinémas, on a commencé. Surtout le cinéma. Alors là, il y avait du monde hein, qui allait. Tous les dimanches après-midi, la salle était pleine. Madame Vergier faisait le gendarme là-bas, hein, parce que les jeunes qui arrivaient avec leur vélo, ils faisaient un peu les corneaux dans les salles. Ils se croyaient. Ah ben, il y a beaucoup des Saint-Laurentinois ou Tinoises qui se sont mariés sur Saint-Germain. Ça, c'est vrai, c'était un lieu de rencontre. Hein. Ils étaient comme nous, ils étaient restés chez eux tranquilles. Hein. Quand ils ont ouvert les cinémas, ben on est tous partis au cinéma, mais la plupart étaient accompagnés des parents, on n'était jamais sortis. On n'avait jamais rien vu. Hein. Alors, ça faisait les fous, Madame Vergier. Qu'est-ce qu'elle a eu du problème à la faire taire? Alors, c'est de là que beaucoup se sont connus, mes copines de Saint-Jean, avec des Saint-Laurentinois, moi, Saint-Laurent, d'Aubrive, de Pont, de la montagne, ils venaient tous le dimanche après-midi au cinéma. À la mairie en haut, à la salle, il y avait une grande salle. Puis on était surveillés, hein, Madame Vergier était sur le pas de la porte, puis elle criait de temps en temps pour nous faire taire, parce que les garçons chahutaient les filles. Mais nous, les filles, on était avec les parents devant, et eux, ils étaient derrière, qui faisaient les ânes. Dans la grande salle, une grande salle, hein, on montait des larges escaliers, là, et puis à un moment donné, ça se sépare, et puis en haut, il y a un grand balcon et on rentrait dans la salle. Mais on voyait les gens tous à pied, hein, il n'y avait pas de voiture, en vélo, beaucoup de vélos. Les jeunes avaient beaucoup de vélos. Mais moi, j'avais pas les moyens. Puis j'ai jamais aimé faire du vélo. Pourquoi? Il y avait trop de montées chez nous. Mon mari m'en a offert un. Je l'ai revendu 8 jours après. Je lui ai dit, écoute, je le revends. Mais pourquoi? Écoute, je lui ai dit, écoute, tu descends de là, tu es obligé de remonter. Tu vas à Pont, tu descends, mais tu es obligé de remonter. J'ai horreur de pédaler à la montée. Alors je l'ai revendu le prix qu'il me l'avait acheté. Monsieur Pommier, c'était un instituteur. Mais j'ai eu plus affaire à lui quand je suis allée à la Croix-Rouge, travailler à la Croix-Rouge. À 14 ans, ma mère m'a dit, écoute, elle savait que j'aimais coudre. Je faisais déjà des petites bricoles. Et elle avait demandé à monsieur Pommier, est-ce que vous ne prendriez pas ma fille? Oui, mais il faut qu'elle vienne. Moi, j'aimais coudre, toute gamine déjà. Quand on habitait là-haut, au Chuil, déjà, je faisais des petites robes, des petits machins comme ça. Des volants, je brodais. Moi, ça a été la couture gamine. Hein. J'aimais. Tout de suite après, j'ai une copine qui était de la Halle qui m'a dit, il y a Madame Cotin qui cherche quelqu'un pour coudre. En montant, en allant vers la cime d'Ibourg, après la mairie, il y a une place où il y a un lavoir, de la Halle. Il y avait un bar chez Meunier. Et c'était une fille meunier, cette Madame Cotin, et son mari était à l'armée, et elle habitait dessus, c'était leur maison. Alors je m'y suis présentée, comme ça, en sortant de... J'étais osée quand même, hein, parce que j'avais point d'éducation, hein, ça c'est vrai. J'étais osée, je suis allée, j'ai dit, j'y suis, Madame Cotin, que vous cherchez... Ah oui, et tu es où? J'ai dit, ben, je suis à la Croix-Rouge, mais je veux quand même continuer plus loin, j'aime coudre. Eh bien, écoute, quand tu veux, tu commences. On habillait les gens, il n'y avait pas du prêt-à-porter à cette époque. C'était tout à la main. Ah oui, elle avait une machine à coudre. Mais bon, il fallait faire les essayages. Et bon, les essayages, elle m'envoyait faire les essayages. Elle y allait, elle, avec ses enfants. Elle avait 2 garçons. Eh bien, il m'accompagnait dans la campagne. Il fallait des fois aller loin. Je faisais les essayages et puis on terminait. Puis après, les gens venaient chercher leurs vêtements. Oh, j'ai dû y rester peut-être un an, peut-être pas plus. Parce que de chez Madame Cotin, quand Madame Cotin, je travaillais chez elle, et ben j'avais encore des copines, j'en avais qui cousaient avec moi. Il y en a une qui m'a dit, tu sais pas, là-bas, ben, il y avait la Léa. Avec moi, là-bas, à la Croix-Rouge, elle m'a fait dire, dans mon quartier, il s'installe une Madame Jorin. Elle fait de la haute couture. Ça te dit, toi? Ah ben, alors, je dis, moi, ça, j'aimerais. Je lui dis, elle habite où? Un peu avant chez moi, la grosse maison. Viens, je te ferai voir. Alors, je suis allée jusqu'à... Ben, sur la route de qui vient à Saint-Laurent. À K. Il y a un ruisseau, puis il y a une route qui monte dans la campagne, là, sur le cerf. Là, je vois cette grosse maison, elle me dit, oui, c'est là, elle habitait à côté, Léa. J'y suis allée, je dis, je cherche du travail dans la couture. J'ai, mais pas assez, quoi. Elle m'a dit, pas de problème, je te prends. Commence lundi. Je sais qu'à 16 ans, j'étais déjà chez Madame Jorin, dans la haute couture. Alors là, la haute couture, c'était les gens qui avaient acheté leurs beaux tissus et qui venaient se faire des beaux ensembles, des belles robes. Ah, moi, j'aimais. J'ai fait des belles choses, même ici. Hein. J'ai fait des complets d'hommes. Hein. Son mari avait du boulot à Paris, elle était partie là-haut, elle faisait la belle... Alors, on était de la haute couture, hein. On habillait que les grandes dames, hein. Ça qui avait de quoi payer, hein. C'était pas n'importe qui. Alors elle avait fait venir un couturier, un homme. Il nous avait appris à chanter le petit quinquin. Parce qu'il était de... Ça chante où, ça? En Alsace, le petit quinquin. Et il nous faisait chanter dans l'atelier. Deviens mon petit quinquin, mon petit poussin. Jusqu'à demain. Et j'ai appris à faire les costumes d'hommes. Monsieur Jolerin avait un vélo, Il me l'a prêté une fois, je me suis cassé la figure parce qu'il fallait pédaler qu'à l'arrière. Il pédalait à reculons. C'est la première fois qu'on avait vu un vélo comme ça. Et les autres n'ont jamais pu s'y faire. Personne n'avait de voiture. Hein. Ni même eux, les gérants, n'avaient pas de voiture. Il n'y avait que lui qui avait son vélo à reculons. Ah, moi, on est venu jusqu'à Saint-Laurent, même jusqu'à Sainte-Eulalie à pied, faire les essayages. Et puis tard le soir pour les dames. Hein. Moi, ce que j'avais qu'une chose, c'était pouvoir coudre moi, habiller les gens moi, 5 personnes. Et c'est ce que j'ai fait à Saint-Laurent. Quand je me suis mariée, j'ai cousu ici. Je me suis mise à mon compte. J'arrive ici, il y a un cousin qui se marie, un cousin du côté de mon mari. Là, sur le balcon. Arlette, tu achèterais pas le tissu, me faire mon costume. Parce que moi, on va pas en ville, nous, on a peur, on n'aime pas, on n'a jamais été en ville, tu ne me ferais pas mon costume. Oh, ben, j'ai dit, si, pourquoi pas. Ben, j'ai fait le costume du cousin Edmond, gris, j'ai allé acheter le tissu, lui fait son costume. Sa fille me le dit encore, Inès. Elle m'a dit, oh là là, que mon papa, il avait un beau costume. Ben, quand il y a eu le prêt-à-porter, ça avait calmé, il n'y avait pas plus grand-chose. J'habillais Madame Ballet. J'avais fait un joli costume à Monsieur Ballet, Jean Ballet. Et puis là, ça avait. Quand il y a eu le prêt-à-porter, les gens ne faisaient plus faire. Les gens, maintenant, ils achètent du tout fait. Hein. Moi, je suis rentrée dans une usine de tissage, ici. Puis d'abord, on m'a mis à la retraite à 54 ans. Hein. Ah ben oui, moi, je cousais encore hein, chez moi, hein, entre. Ben oui. Alors, même quand j'ai été à la retraite, j'ai demandé à la mairie à Saint-Gilles, je lui ai dit, vous savez pas, monsieur Pommier, pourquoi ? J'ai dit, parce que je voulais savoir si j'avais été cotisée quand on travaillait à la Croix-Rouge. Alors, je lui ai fait une lettre, et il m'a répondu, il m'a dit, eh non, Arlette, à cette époque, on ne cotisait pas. Non, le cotin, non, elle me donnait qu'une étrenne de temps en temps, tandis que chez Madame Jorin, on était un peu salariés. Disons que c'était une étrenne. C'était tellement maigre que. Je suis arrivée en 1950 à Saint-Laurent. 5 ans, on s'est fréquenté. Ah ben moi, quand il a commencé à venir chez moi, et puis après moi, ça. Et je suis venue 2-3 fois là chez lui, là à côté. Et moi, mes parents, ben, c'est quand mes parents. Comme je sais pas, comment ça se fait que je. Ben, et elle le voit, ma maman le connaissait là-bas au cinéma. Et puis petit à petit, il est venu à la maison un dimanche, et puis c'est fini. Il me raccompagnait. J'allais à la couture, il venait en vélo, il me raccompagnait chez moi. Il discutait avec mes frères et son papa était artisan. Alors, ma maman était en confiance. Et ma belle-mère, c'est pareil. Quand j'étais pas mariée, je lui avais déjà fait une jolie robe. Moi, quand je suis venue habiter là, il n'y avait rien. C'était les grands-parents de mon mari. Et bien, les toilettes étaient à la place de mon garage, là-bas. Et quand on habitait là-haut derrière, les toilettes étaient dans le jardin. Et il n'y avait pas que nous. Quand je suis arrivée, j'avais mon beau-père qui était en train d'installer une usine là où il y a le grand bâtiment, là-bas. Il faisait que de l'olivier, mais l'olivier du midi n'était pas assez veiné. On faisait venir d'Italie. Mon beau-père et puis mon mari a travaillé après. Je lui ai aidé, sinon on n'aurait pas, on n'était pas libre. On allait marcher le matin avec les chiens jusqu'à la carrière à Laval. Et puis après, il a porté sa grande corbeille de pain, sa cornichon, et puis les élastiques, et on mettait les élastiques. J'ai aidé à faire jardin, j'ai aidé. Moi, ce qu'on voulait, c'était gagner notre vie et puis pouvoir voyager. D'abord, on disait pas mon mari, j'étais la bonne amie du moment. J'étais sa bonne amie, j'étais pas sa femme, j'étais la bonne amie. Non, on s'accordait, mais on lui a donné 2 larrons, foire. On faisait rien l'un sur l'autre. Hein. J'allais à la chasse avec lui, on allait pêcher, on, tous les dimanches, on faisait des grandes randonnées. On allait au bal. Ben là, il dansait pas trop, il savait pas, mais petit à petit, il a appris. Puis après, quand on a commencé, on a eu un peu d'argent, quand on a commencé à voyager, ben voilà. Il a fait après sa classe, les conscrits, il faisait des repas, je participais. Moi, à ma classe, on faisait des repas et puis on des voyages. Il participait à tout. On se quittait pas. J'allais à la chasse avec lui. Je portais le fusil et puis le sac tire. Je portais le gros sac, moi. C'est mon dos, le casse-croûte. On allait à la passe à la bécasse. Ben tiens, ils en ont parlé l'autre jour. Qui c'est qui a dit, mais dis Arlette, t'as pas dû en louper une fois, toi? Ben j'ai dit non, parce que on montait à l'écharasson. Je me mettais à un poste. Puis je leur criais, à droite! J'en voyais passer une. Ça tirait de l'air. De l'air! J'adorais aller à la passe à la bécasse. Parce que, alors là, moi, mes vacances, je ne les ai pas passées à la mer. On allait chez les clients avec mon mari, parce que mon mari, il y tenait à son travail. Là. Il aidait nous on a connu beaucoup de villages, de coins avec mon mari, qu'on avait des clients chez qui on avait envoyé ou qui étaient venus. Mais quand on avait ils avaient des nouveautés, ben on y allait dans le Jura. Moi, je suis mariée en 50, mais je l'ai eu en 52. J'avais 21. Et ma fille est née en 52. Eliane. Je voulais au moins un. Mon mari n'en voulait point. Parce que quand son frère est né, il est parti de la maison, il n'en voulait point de frère. Il voulait être tout seul. Pas d'enfant, il voulait être tout seul. Quand son frère est né, il est parti chez la grand-mère, la grosse maison, là-haut au puits. Et il y est resté 4 jours, il a fallu que son père aille le chercher. Il lui a dit, mais t'as un frère, il faut que tu rentres à la maison. Il voulait pas de frère. Alors, ça suffit, hein, il a dit, fille ou garçon, mais pas plus. Non, mais bon, on vivait bien comme ça. Hein. Ça m'a permis de voyager, j'aurais eu les enfants, je serais été à la maison, tandis que là... Hein. On était bien, on voyageait, on faisait comme on voulait, on allait danser. J'allais à la chasse avec lui le dimanche, on s'accordait beaucoup.